Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères, toutes les exigences de l'Évangile ne sont intelligibles que par la foi. Mais une foi vivante en la personne de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici et tout ce que nous pouvons dire en matière de religion ne s'explique que dans le mouvement de la foi. Et il est totalement inutile de chercher à l'expliquer autrement et ailleurs, sous peine de voir diminuer la force de ce que nous voulons expliquer et de nous transmettre très bien nous-mêmes et de transmettre assez mal notre Seigneur. Tous ici, nous avons lu un nombre considérable de vies de Jésus. Et la plupart du temps, surtout dans les dernières éditées, nous en avons appris beaucoup sur l'auteur, mais assez peu sur Jésus. On voulait tellement transmettre Jésus à l'homme contemporain que c'est l'homme contemporain qu'on a transmis à lui-même. On a mis devant son nez un miroir et on lui a dit « Voilà Dieu ». Et l'on se rappelle en souriant le vieux Voltaire qui disait « Dieu a fait l'homme à son image et celui-ci le lui a bien rendu ». Alors, mes frères, quittons ce qui nous pourrait amener à ces travers et considérons la foi telle qu'elle nous est exprimée dans l'Évangile. Je la résumerai pour faire court, une fois n'est pas coutume, à deux points. Le premier point de la foi telle qu'elle nous est exprimée dans l'Évangile est de ne pas douter de Dieu, de s'appuyer intrépidement sur lui, fût-ce au milieu des pires épreuves. Rappelez-vous ce moment où les apôtres sont dans la barque sur la mer démontée. Bien sûr que les apôtres ont peur, mais ils n'auraient pas dû. La deuxième caractéristique est de reconnaître intérieurement le Christ. À la manière de saint Pierre qui a reconnu Jésus pour le Messie, pour le Fils de Dieu, à Césarée de Philippe. Dans la première manière, l'aspect de confiance totale est plus marqué. Dans la deuxième manière, l'aspect de connaissance est plus marqué. Que vaut-il mieux ? Pardon ? Quelle question posez-vous là ? Je croyais que vous étiez catholique. Que vaut-il mieux ? Mais vous n'êtes pas dans la religion du « ou », en dépit de certaines expressions liturgiques qui n'appartiennent pas à ce milieu. Mais vous êtes dans la religion du « et ». L'une ne vaut pas mieux que l'autre et l'autre ne vaut pas mieux que l'une. Il les faut toutes les deux. La confiance et la connaissance ne s'opposent pas, mais elles s'appellent. Elles s'appellent et elles se conjuguent pour former la foi totale, la foi vive. Car comment se confier en celui que l'on n'a pas reconnu ? Et l'aurait-on vraiment reconnu si l'on ne se confiait pas totalement à lui ? Restons-en, je vous prie, au grand exemple de saint Pierre à Césarée de Philippe. Êtes-vous déjà allé dans votre vie à Césarée de Philippe ? Ça n'est même plus un champ de ruines. C'est un endroit assez verdoyant, perdu au fin fond de la Galilée, juste avant le plateau du Golan. Il reste vieille ruine, toute mangée, ravagée par une végétation indiscrète dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre. Est-ce un temple, n'est-ce pas un temple ? Les savants et les archéologues vont pouvoir en parler pendant des siècles et des siècles sans jamais rien nous dire de définitif. Et qu'y a-t-il d'assez extraordinaire à cet endroit ? Eh bien, c'est une des sources du Jourdain. Je ne fais pas là seulement le guide touristique. Ce que je veux vous montrer, c'est là où vous êtes. Césarée de Philippe. Il n'y a pas plus grec, il n'y a pas plus païen que ça. Césarée vous rappelle le César et combien vous avez raison, et Philippe fait plus grec que le grec. Vous êtes dans un endroit dont on ne peut, somme toute, plus dire grand-chose. Mais qui n'est plus que ruine, que rien. S'il y a eu là de la splendeur, elle a bien disparu, mais la nature donne à l'endroit sa seule splendeur. Mais c'est là que naît le fleuve, qui est, dans la Palestine, plus que toute autre chose, l'image de la vie. Et c'est dans ce lieu, le moins indiqué qui soit, que Jésus pose à ses apôtres cette question : qui dit-on que je suis ? Ils répondent à peu près n'importe quoi, sauf Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Croyez-vous que s'il n'avait pas eu confiance, une confiance inébranlable, pour autant que cela soit possible à la faiblesse humaine, en Jésus, il aurait dit cela? Et croyez-vous qu'il aurait la moindre connaissance sans la confiance? Mais aurait-il cette confiance s'il n'avait pas déjà quelque chose de la connaissance, de la messianité, voire de la divinité du Seigneur? La foi. Enfin. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Il est curieux qu'en hébreu, ce mot n'existe pas. En hébreu, il n'y a pas de substantif pour exprimer cet état de la croyance. C'est le verbe seul qui existe. Le verbe qui exprime non seulement un concept, mais surtout une attitude vivante. Or, le verbe hébreu, aman pour les savants, qui est employé pour exprimer l'attitude de l'homme qui a la foi, peut se traduire par s'appuyer sur quelqu'un qui ne cède pas. Ou bien, à une autre voix, le même verbe peut aussi se traduire par se laisser porter, se laisser nourrir par quelqu'un. Avoir foi en Dieu, c'est bien cela. C'est s'appuyer sur quelqu'un qui ne cède pas, Dieu l'inébranlable, tel que nous le chantions tout à l'heure dans plusieurs psaumes des Vêpres. C'est se laisser porter par lui, c'est se laisser nourrir par lui. Il y a là toute la révélation que Dieu fait de lui-même. Vague. Dieu. Mais Dieu, c'est Jésus. La seule révélation que nous ayons de Dieu, c'est le Christ. Qui m'a vu, Philippe, a vu le Père, dit Jésus. Le Christ. Le Christ révèle Dieu tout entier. C'est le Christ bon pasteur, qui révèle le Père des cieux. Et tout cela est déjà en germe dans cette attitude de celui qui se laisse nourrir et porter par Dieu, en qui il a confiance, parce qu'il est sûr que quoi qu'il arrive, il ne cédera pas. Celui sur lequel on peut ainsi s'appuyer, celui par qui l'on peut se faire porter, celui qui nous nourrit, est alors dit immanquablement fidèle. Ce mot admirable est, comme dans le Vieux Testament, réservé à Dieu. Il est le Dieu fidèle dans ses promesses, comme le Christ sera le témoin fidèle. Et vous n'êtes fidèle, vous, et moi avec, qu'à cause de sa fidélité, que dans sa fidélité. C'est ce que vous chantiez tout à l'heure, ou tout au moins que le cœur chantait admirablement tout à l'heure. Soyez les imitateurs de Dieu. Dans la fidélité du Christ, pourrait-on résumer le propos de saint Paul. Nous ne sommes pas fidèles par notre acharnement à être ce que nous sommes. Nous sommes fidèles parce que lui nous prend dans sa propre fidélité. Nous sommes fidèles de son imitation, de l'imitation de sa fidélité. Au milieu de ce monde où tout s'écroule, c'est lui qui est fidèle. Et c'est sur sa fidélité que la nôtre naît et croit. Il ne cède pas, même si le monde s'écroule, et le monde s'écroule sans cesse. Au milieu de ce monde, où il y a tant de mensonges, on peut se fier à Dieu, qui ne peut, comme nous le récitons chaque jour dans l'acte, ni se tromper, ni nous tromper. Au milieu de ce monde où même les meilleurs sont si changeants, nous pouvons faire fond sur Dieu parce qu'il est fidèle. C'est tout cela, la foi, selon les saintes écritures. Or, si c'est tout cela la foi selon les saintes écritures, c'est très exactement ce qu'on ne veut pas qu'elle soit selon la science du monde. Nous, qui avons la chance discutable d'appartenir à nos générations, nous savons bien ce que l'on a voulu nous enseigner, non pas sur Dieu lui-même, mais sur les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont changeantes. Nous avons vu des tentatives puissantes, raisonnées, impérieuses, pour faire changer la religion et pour faire changer la vérité de Dieu. Nous avons toujours été, nous autres, de ceux qui savaient voir ces choses. Mais il faut que l'Église tout entière, aujourd'hui, comme le fait si bien le souverain pontife, sache les regarder en face. Et si par cas elle avait pris un mauvais chemin, reprendre un bon. C'est ce fameux chemin vague, ce fameux chemin du relatif. Or, le relatif de la religion, vous vous en rappelez, chrétien, c'est la première chose que le souverain pontife a dénoncée lorsqu'il a été élevé sur le trône de pierre. Nous vivons dans une religion qui semblerait s'abandonner au relatif de la marche du monde. Elle n'est plus là pour éclairer la marche du monde, elle serait là pour se laisser éclairer par la marche du monde, et c'est très exactement ce que nous ne voulons pas. Nous ne le voulons pas pour l'Église tout entière, mais pour nous en particulier, le voulons-nous ? Où aimons-nous ces variations qui flattant quelquefois nos ambitions, flattant d'autres fois nos mauvais penchants nous inviteraient à moins croire, à moins observer, à moins pratiquer les choses que le Seigneur a lui-même instituées. Or, dans la bouche de Jésus, il n'y a pas de place pour cela. Rappelez-vous, « Amen, amen, dico vobis ». Cela a dans la bouche de notre Seigneur une force devant laquelle tout plie. Le mot « amen », puis l'adverbe du verbe « haman », qui exprime la foi, est un absolu. Ainsi, lorsque notre Seigneur emploie cette expression, en vérité, je vous le dis, traduit-on en français, mais « amen, amen, dico vobis », il fait appel à notre foi et en quelque sorte, il s'engage. C'est sûr, je vous le dis, vous pouvez me croire, semble-t-il nous dire. C'est pas nous qui nous engageons, c'est lui qui s'engage. Nous faisons ce que nous voulons de sa parole. Nous faisons ce que nous voulons de ses enseignements. Mais ses enseignements sont ses enseignements, ils ne changeront pas. Sa parole est sa parole, elle ne changera pas. Nous pourrons lui donner toutes les interprétations que nous voudrons. Il faut qu'elle soit éternelle parce qu'elle est divine. Il faut qu'elle soit immuable et nous devons la croire comme telle. Or, ce qui est saisissant, ce qui est presque déroutant, c'est de voir l'absolu que Dieu, dès l'ancienne alliance, demande dans la foi. Pas une petite foi d'accordaille, où chacun en portant un peu de son petit bois alimente le feu. Pas de ces choses que l'on va abaisser à sa propre taille et que l'on va faire sien, un absolu. En dehors duquel il n'y a rien. Car, dit-il sur le Sinaï, je suis un Dieu jaloux, un Dieu exclusif, pourrions-nous traduire. Rappelez-vous Moïse, qui avait fait beaucoup jusque-là. Moïse, il hésita un instant dans son cœur avant de frapper le rocher d'où sortit l'eau vive. Désert calciné. Et nous pouvons comprendre qu'il est un moment d'hésitation. Mais à cause de ce moment d'hésitation dans son cœur, il ne verra pas la terre promise. Jésus reprendra cette expression même. Vous pouvez le vérifier au 11e chapitre de l'évangile de Saint-Marc, le verset 23, me semble-t-il. Il ne faut pas hésiter dans son cœur. Il est trop clair que cette qualité de foi absolue porte une marque divine. Aucun homme, si aimé soit-il, ne peut l'exiger d'un autre, parce qu'il n'est qu'un homme fragile. Mais Dieu, lui, peut le demander à l'homme, parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce sera la grande leçon que Jésus voudra que les apôtres tirent de l'affaire du jeune homme riche. Vous vous souvenez la scène, ce brave jeune homme qui a toutes les vertus, quand Jésus lui donne comme vocation d'abandonner tous ses biens, s'en va tout triste parce qu'il avait précisément de grands biens. Et les apôtres ronchonnent dans leur coin. La leçon que Jésus leur administre est terrible. C'est l'histoire du chat de l'aiguille, vous vous en souvenez. Et il ne manque pas entre eux de se dire, mais alors, c'est impossible à l'homme. Et l'homme, c'est eux. Quand il voit l'attitude de Jésus avec le jeune homme riche, et surtout quand il voit le jeune homme riche, qui mérite tant de considération. Ils se voient eux-mêmes et ils mesurent leur incapacité pour une fois. Quelle désespérance les habite. Et Jésus de leur dire, oui, c'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui vaut pour les apôtres, mes frères, vaut pour chacun d'entre nous. Ce qui nous paraît impossible est sûrement pour nous tout seuls. Mais avec la grâce de Dieu, notre application et notre patience, tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Considérez, je vous prie, un instant, la grande figure d'Abraham qui domine tout l'Ancien Testament, venu de lui. Pensez à cet homme qui vient de toucher le siècle et dont la femme n'est pas beaucoup plus jeune. Que peuvent-ils attendre sinon la mort ? Tout est fini pour eux. Et pourtant, il entend l'Éternel lui dire « Lève ton regard vers le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta postérité. » Et saint Paul de conclure, il considéra son corps pour ainsi dire mort, et le sein mortifié de Sarah, et sans faiblir dans la foi, il ne douta point. C'est cette qualité de foi que Dieu demande. Et rien ne glorifie mieux Dieu, ne glorifie davantage le Seigneur que cette qualité de foi. C'est cette même nature de foi que Jésus demande dans l'Évangile. Il en demande pour Dieu, mais chose inouïe, il la demande aussi pour lui, signant ainsi son origine et sa nature divine. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit-il dans le Saint-Évangile de Jean au 14e chapitre. Croyez aussi en moi, de la même foi, totale et absolue. Il nous demande tranquillement des choses étonnantes et parfaitement inutiles. Marcher sur les eaux, transporter des montagnes, et que sais-je encore ? Combien de choses nous demande la religion que nous pourrions considérer comme inutiles ? Faut-il les faire ? Et si elles nous sont demandées, nous n'en sommes pas juges. Seul Dieu l'est. Et sans doute sait-il, lui, ce qu'il nous demande. Il vient à la rencontre de ses disciples. Il vient en marchant sur l'eau. Et sur sa parole, Pierre ne doute pas. Il enlève son vêtement, il enjambe la barque et le voici, marchant à son tour sur les eaux. Mais, voyant le vent violent, dit le texte, peur. Et il commença à s'enfoncer. On comprend qu'il a eu peur. Surtout si d'aventure vous avez vu ce que c'était que le vent violent sur le lac de Tibériade. Je sais bien que les images vous représentent toujours le lac de Tibériade comme un lieu paradisiaque de mer d'huile. Il est comme ça la plupart du temps, mais quelquefois il s'agite et il s'agite bien. Et on imagine bien alors combien Pierre a pu avoir peur. Marcher sur les eaux, ce n'est pas naturel pour un homme. Et quand il y est, il se sent évidemment dans une situation précaire. Et pourtant, que dit le Seigneur ? Le Seigneur étendit sa main, il le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ainsi, ce que nous nous demandons, Seigneur, comment ne pas douter? Comment ne pas douter de vous, alors que nous sommes dans une situation bien plus difficile que celle de marcher sur les eaux? Parce qu'après tout, marcher sur les eaux est un exercice comme un autre. Mais marcher là où nous sommes en train de marcher, vivre dans le monde où nous vivons, c'en est une toute autre. Qu'est-ce que marcher sur les eaux à côté d'endurer le poids de la vieillesse, d'endurer les infirmités, d'endurer la maladie, d'endurer la méchanceté du siècle, d'endurer toutes les attaques contre ce que nous avons de plus cher, de voir la destruction des familles et de tout ce qui fait l'honnêteté publique? Seigneur, comment pouvons-nous ne pas douter? Seigneur, venez au secours de notre foi, comme saint Pierre le demandait. Car oui, vous nous demandez cette chose impossible, et bien plus difficile que de marcher sur la mer, celle de marcher sur vos chemins dans le temps présent. Trouverons chrétiens la même leçon dans la tempête apaisée, dans la guérison de l'enfant épileptique, dans la guérison de la fille de la cananéenne, dans la guérison du serviteur du centurion. À travers toutes ces scènes, Jésus, qui nous parle directement et toujours, nous pose la même question. Crois-tu en moi de cette façon? Cette façon qui est une foi absolue, inconditionnée, qui est la preuve qu'on traite Jésus en Dieu, si l'on peut dire. Elle est le signe que l'on a trouvé Dieu en Jésus. Alors, mais alors seulement, nous avons un Dieu, le vrai, le seul Dieu. Eh, dit-on, si nous avions cette foi, gros seulement comme un grain de sénevé, ainsi qu'on le lit dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous dirions à cette montagne, ôte-toi de là et elle obéirait. Oui, Seigneur, donnez-nous ce grain de sénevé. Car une telle foi grandit au milieu des épreuves de la vie, comme la graine de sénevé deviendra le plus grand des arbres du jardin. L'Évangile ne cultive pas les âmes en serre chaude. On oserait dire que c'est un livre pour le plein vent, pour le plein vent de Dieu, c'est-à-dire pour résister, hélas, au plein vent du monde et du mauvais. L'Évangile n'est pas fait pour les temps de tranquillité, il est fait pour les temps d'agitation, il est fait pour les persécutés, il est fait pour les combattants. Et c'est dans le combat, c'est dans l'épreuve, quelle que soit cette épreuve, qu'elle soit extérieure ou intérieure, Dieu seul sait celle qui est la nôtre, et qu'il ne permettra pas d'aller trop loin, selon les enseignements du saint apôtre Paul. Or, en ce plein vent du combat, en ce plein vent du désordre, en ce plein vent du déséquilibre, qui est le désordre ordinaire du monde, notre foi est éprouvée, et Dieu est bien silencieux parfois. On a l'impression qu'il dort comme il dormait sur la barque. Et l'on voit partout le triomphe des méchants. C'est bien souvent que dans notre vie, nous avons affaire plus grave que de marcher sur les eaux, qu'il nous faut soulever plus fort que des montagnes. Tant de préjugés, tant d'habitudes, tant d'attaques, tant de moqueries, tant de vulgarités. Et à ce moment-là, le Seigneur ne peut nous faire entendre que ces simples mots. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? La même qualité de foi nous est demandée quand il s'agit de la rémission des péchés. On sait que c'est un plus grand miracle de pardonner les péchés que de faire marcher un paralytique, si nous en croyons l'évangile selon saint Marc à son deuxième chapitre. C'est ce que le Christ nous affirme. Et il n'est accordé qu'à la foi. Va, ta foi t'a sauvé. Or, chrétien, tout l'appareil de la religion, tout le savoir de la théologie ne servirait à rien s'il n'y avait l'œuvre de salut. Vous vous souvenez du beau texte de saint Paul, « Je pourrais être ceci et cela, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Alors on donne une piécette à la quête. Eh bien la charité, c'est pas ça. Ça en fait partie, notez bien, dès que la piécette devient plus grosse. Mais ça n'est pas ça. La charité, c'est l'être même de Dieu. C'est le mouvement de l'être même de Dieu envers les hommes. Dieu est amour, dit le saint apôtre Jean, si justement. C'est la nature de Dieu que d'être amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il sauve. La réalité de la divinité, elle se tient là. Et ne peut recevoir quelque chose de l'amour de Dieu, ne peut se laisser toucher, emporter, saisir, assimiler à l'amour de Dieu, que celui qui veut être sauvé, que celui qui sait qu'il doit être sauvé. Si vous relisez le don des commandements sur le mont Sinaï, c'est la première parole que Dieu dit de lui-même. Alors, être sauvé de ses péchés, c'est cela qui compte. Et l'amour de Dieu est si grand qu'il ne l'a pas fait seulement une fois, mais qu'il le fait pour autant que nous le voulons, au-delà de l'inlassable. Et nous sauver, pardonner nos péchés pour que nous puissions repartir au service de sa gloire, c'est un miracle plus grand que n'importe quel autre miracle physique. Mais aux pécheurs, le Christ demande, « As-tu la foi en moi ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord que seulement le pécheur peut recevoir le Christ. Car vous savez ce qu'il advient de celui qui pense qu'il n'est pas pécheur. Qui de nous va se lever maintenant et dire « Je ne suis pas pécheur ». Chacun qui se regarde lui-même dans le secret de son cœur, sans en faire trop de publicité, à moins de maladie mentale, sait qu'il est pécheur. Et qu'il a besoin du Christ, médecin de son âme. Qu'il a besoin sans cesse d'être lavé par l'eau qui coule du côté transpercé. Et c'est pour cela que nous pouvons entendre le Christ. Sans quoi, puisque nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes déjà sauvés, pas besoin du Christ. Puisqu'on croit qu'on l'a, on ne va pas le chercher. Cela veut dire, as-tu assez de foi pour te jeter, pour te perdre en moi? Ce n'est pas en toi. Et la justice et la sainteté, c'est en moi, et c'est en moi qu'il faut venir. Il faut que tu te quittes toi-même. Il faut que tu quittes tes mauvaises habitudes, tes petites injustices, tes petites étroitesses pour entrer en moi. Et cette foi inclut, bien sûr, le détachement volontaire, radical du péché, mais l'âme cesse de vouloir trouver en elle-même le salut. Tout au contraire dans ce long chemin où elle suit Jésus. De quoi les gens se plaignent-ils? cela ne va point assez vite. Oh, je me suis confessé, je vais refaire les mêmes péchés. Vous avez jamais entendu des imbéciles vous raconter ça?
Mais moi, j'entends ça tous les jours de ma vie. Enfin, chaque fois que je me tiens au divin tribunal. J'entends que des braves gens me raconter qu'ils sont désespérés parce qu'ils font toujours les mêmes péchés. Et je me tue à leur dire que tant qu'ils ne changeront pas de boîte crânienne, ils feront à peu près les mêmes. Mais qu'au moins ceux-là, ils les connaissent et que je m'étonne qu'ils ne se battent pas mieux contre eux, puisque c'est toujours les mêmes. Bien sûr que c'est une longue épreuve, que c'est une longue purification, que c'est un long chemin derrière lequel nous marchons. Nous marchons avec le Seigneur, où petit à petit nous apprenons ce qu'est la vérité. Et c'est là que nous avons la vie. Ça n'est pas en nous, mais c'est à l'extérieur de nous. Et nous comprenons, ce faisant, que la purification, c'est Dieu, c'est Jésus. Il faut que ce soit lui qui s'en mêle. Ce n'est qu'en lui que je peux me jeter. Même encore divisé, même avec ma pauvre foi, même avec mon pauvre amour, même avec mes imperfections, c'est parce que je vais me jeter en lui qu'immanquablement je vais progresser jusqu'à la perfection en ce monde ou dans l'autre. Alors la pécheresse s'approche de Jésus, elle baigne ses pieds de ses pleurs, et la voilà sur les chemins du salut. Elle a trouvé son sauveur, son cœur reverdit. Que dis-je, il devient réellement nouveau. Un miracle alors s'est produit, plus grand que celui de l'eau qui jaillissait tout à l'heure du rocher. Pourquoi ? Parce qu'en dépit de son imperfection, elle a cru. Elle a cru au Christ qu'il avait d'ailleurs prévenu de mystérieuses manières. Et Jésus lui dit simplement, « Ta foi t'a sauvé. » Nous pouvons, prêtres du Seigneur, attester que l'histoire évangélique se continue sans cesse, mais qu'il n'y a pas d'autre vainqueur du péché que le Christ et que l'on ne vainc pas le péché sans croire au Christ. Croire au Christ, c'est s'appuyer sur lui intrépidement et ne pas douter de lui, même si les eaux sont déchaînées lorsque l'on marche sur elles, même si on a l'impression qu'il faut soulever des montagnes trop lourdes pour nous. Et ce qui permet à cet élan du fond de l'être d'aller vers lui, c'est mystérieusement parce que Dieu s'est fait connaître à nous. Déjà dans l'Ancien Testament, ce caractère de la reconnaissance de Dieu est marqué. Sans doute, croire en Yahvé, c'est du fond de soi-même s'appuyer sur lui, même dans les pires épreuves de la vie. Mais est-ce là un instinct aveugle ? Non pas. C'est Dieu qui le déclare lui-même. Il a fait connaître qu'il est là, qu'il est vivant. Et en ce sens, selon la mystérieuse et saisissante expression du prophète Isaïe, croire, c'est comprendre que c'est lui. Le comprendre d'une mystérieuse et totale certitude. Vous êtes mes témoins afin que vous me reconnaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Lit-on au 43e chapitre du prophète Isaïe. Cet aspect est encore plus fortement marqué dans l'Évangile. Toute l'histoire évangélique se ramène à celle de la reconnaissance du Christ. Et l'on peut dire qu'aujourd'hui encore, le mystère de l'Évangile, le mystère de l'Église, dans ce monde, est ce même mystère de la reconnaissance intérieure du Christ par la foi. Et toi, qui dis-tu que je suis ? La foi chrétienne, vous l'aurez compris, ne serait-ce que par votre expérience, est plus qu'une adhésion intellectuelle à des vérités révélées. Elle est la révélation du Christ lui-même. Je veux dire par là que c'est Dieu dans sa plénitude qui se révèle. Partout, le même mystère éclate. Un homme reconnaît le Christ et le Christ cesse d'être pour lui un étranger. Cet homme entre au cœur de la vie du Christ comme le Christ est entré au cœur de sa vie. Autant qu'on puisse parler en ce domaine si mystérieux, aussi longtemps que notre foi ne porte pas en premier lieu sur la personne même de Jésus, nous n'avons pas encore la foi dans son plein mystère. Nous pourrons avoir un ensemble bien lié de vérités, et c'est nécessaire. Nous pouvons avoir une tradition, et c'est nécessaire. Nous n'aurons pas encore la foi que le Christ nous demande. Pour tout chrétien, il y a de foi que si la personne de Jésus est au cœur de notre vie. Voir Jésus, vouloir le voir, c'est cela la foi. Considérez pour finir l'expérience que l'on faisait faire à vos pères il n'y a encore pas si longtemps, celle qui sortait tout droit des enseignants tridentins, ce que l'abbé appellera l'école française de spiritualité, bref, j'ai oublié le nom de ce brave homme de l'Académie française, un peu excommunié pour une vie de Saint-Jean de Chantal, bref, vous trouverez ça dans vos dictionnaires. Voilà, comme quoi ce serait mieux d'écrire tout son truc au lieu de prendre que des notes. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. L'abbé Brémond. Merci Hervé. L'abbé Brémond. L'école française de spiritualité. Qu'est-ce qu'il disait? Se mettre Jésus devant les yeux. Le regarder tel qu'il vous apparaît dans l'évangile. Le mettre dans son cœur. Unir ses sentiments aux sentiments de Jésus et le donner sur sa main. Eh bien, voilà la réalité de sa foi. Savoir que nous avons été choisis en particulier, chacun, pour regarder Jésus jusqu'à pouvoir l'imiter, parce que sachant qu'il nous aime, nous voulons l'aimer et qu'il n'y a pas de meilleure manière d'aimer que d'aimer avec lui, c'est-à-dire de travailler pour le salut du monde. Cela, ce n'est pas la chair et le sang qui nous l'ont révélé, disait Jésus à Saint-Pierre, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Voilà, chrétien, à quoi vous êtes appelé. Et votre profession de foi doit immanquablement, pour être catholique comme le voulait le saint apôtre Jacques, s'achever dans tout ce qui sert au salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.